Info matin, Nicolas Legrand.
Les délégations calédoniennes en conclave pendant 2 jours et demi. Elles seront enfermées au Sheraton de Deva pour tenter de trouver un accord avec le ministre des Outre-mer, Manuel Valls. Incendie en série dans le Grand Nouméa ce week-end. Un équipement aux boucles de Tina, l'ancienne maison d'un gardien d'une école déjà ravagée en mai 2024 à Logicop, ou encore un engin de chantier à Kenwini hier soir. En métropole, un homme kidnappé et mutilé pour de la crypto-monnaie. Ses ravisseurs voulaient en fait soutirer plusieurs millions d'euros à son fils qui a fait fortune dans ce domaine. 6 jeunes ont été interpellés. À l'étranger, Tel Aviv prépare sa riposte. Le cabinet de sécurité est réuni en ce moment après un tir de missile yéménite sur son aéroport. Le sport du rugby et cet exploit de l'Union Bordeaux-Bègles, l'UBB qui s'est qualifié pour la première fois de son histoire en finale de la Champions Cup après avoir battu Toulouse la nuit dernière. Finale le 25 mai contre les Saints. La météo, les nuages recouvrent le territoire et des pluies faibles et intermittentes sont attendues sur la pointe sud et la côte est pour cet après-midi. Les maximales affichent 26 à 29 degrés et passent légèrement au-dessus des normales.
Bienvenue dans Info Matin pour tout savoir de l'actualité en Calédonie, en métropole et dans le monde. Bonjour Nicolas.
Bonjour Thierry, bonjour à tous.
À la une, un conclave au Sheraton Deva.
Oui, c'est donc cet après-midi vers 14h30 que doivent reprendre les discussions sur l'avenir institutionnel. Et comme Radio Rythme Bleu vous l'annonçait depuis plusieurs jours maintenant, ce sera donc à huis clos et en dehors de Nouméa, Léo Fichou.
Oui, le ministre des Outre-mer Manuel Valls et le conseiller spécial du Premier ministre pour la Nouvelle-Calédonie, Éric Thiers, vont s'enfermer pendant 2 jours et demi dans l'hôtel de Bouraï avec les délégations calédoniennes et ce pour tenter de trouver un accord. C'est peut-être à ce moment-là que le projet d'accord proposé par l'État sera remis aux participants. Mais avant de s'enfermer en conclave, le ministre des Outre-mer fera à 11h un geste coutumier à la maison commune de Guaro. Mais auparavant, Manuel Valls va débuter sa journée au Medipol. Il y sera dès 7h30 pour rencontrer les personnels soignants.
Et hier, à la veille de la reprise des discussions en conclave, le FLNKS tenait à informer la population, et je cite, que les discussions en cours avec l'État français se déroulent dans un climat respectueux et constructif. Il ajoute que, conformément au mandat confié par le 44e congrès de Saint-Louis, le FLNKS est déterminé à mener jusqu'à son terme l'exercice politique engagé, avec pour objectif l'accession de Kanaky à sa pleine souveraineté et le traitement des sujets incontournables identifiés lors des différentes instances. Fin de citation. Alors ce week-end, les discussions sur l'avenir institutionnel ont donc été mises en pause. Hier, c'est à Marais que le ministre des Outre-mer a passé la journée. Manuel Valls a fait notamment le tour des stands de la fête de l'avocat à la tribu de Neche, mais il a aussi tenu des propos très politiques en affirmant croire que, contrairement à ce que l'on dit, on peut mélanger l'huile et l'eau, on peut construire une terre de mélange de culture et de compréhension dans le respect des uns et des autres. Fin de citation. Ensuite, le ministre des Outre-mer s'est recueilli sur la tombe de Yewene Yewene, assassiné le 4 mai 1989 à Ouvéa. De retour à Nouméa, il s'est rendu au centre culturel Chibaou pour un hommage au leader indépendantiste assassiné il y a 36 ans. Avant cela, samedi, le ministre des Outre-mer s'est notamment rendu à Bouloupari pour assister à la fête du cerf et de la crevette. On y reviendra sur l'aspect festif un peu plus tard dans ce journal. Mais à cette occasion, Manuel Valls a aussi souligné la présence du nouveau haut-commissaire Jacques Billan. Il est arrivé samedi matin sur le territoire. Il succède ainsi à Louis Lefranc, qui s'est envolé vendredi soir pour la Bretagne, où il prend le poste de préfet du Finistère. Jacques Billan a marqué sa prise de fonction par un dépôt de gerbe à la Croix de Lorraine, à Nouméa, samedi matin. C'est là d'ailleurs qu'il a échangé ses premiers mots de bienvenue avec les élus locaux, loyalistes et rassemblements, ainsi que les représentants des forces civiles et militaires en Nouvelle-Calédonie. Il ne s'est pas, pour l'instant, exprimé publiquement. C'est donc Manuel Valls qui a salué sa présence lors de l'ouverture de la fête du cerf et de la crevette.
C'est une belle matinée, d'abord parce que nous recevons le nouveau haut-commissaire. Il est juste débarqué de l'avion, M. Jacques Billan, qui a déjà pu assister à cérémonie patriotique avec le dépôt de la gerbe à Nouméa. Et puis, je crois que c'est un beau symbole. Nous soyons ici à cette 27e foire de Bouloupari, à cette fête de la crevette et du cerf, parce que ici, on est au cœur, au fond, de la Nouvelle-Calédonie, dans une commune où il fait bon vivre ensemble. Et on retrouve au fond toutes les origines qui font la richesse de la Nouvelle-Calédonie. Toutes ces activités aussi économiques, artisanales, agricoles. Et c'est aussi un symbole de dire que la Nouvelle-Calédonie a un potentiel et que c'est à travers ce type d'exemple qu'on trouvera, je l'espère, le chemin de la sagesse et de l'intérêt général. Voilà, c'est pour ça que je suis heureux d'être là.
Manuel Valls lors de la fête du cerf et de la crevette samedi à Bouloupari. On reviendra aux événements festifs plus tard dans ce journal.
Radio Rythme Bleu, opinion.
Et c'est l'heure d'opinion, votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu. Voici notre question du jour. Enfermer les délégations calédoniennes en conclave, est-ce selon vous une méthode efficace pour obtenir un accord? Si vous pensez que oui, vous tapez 1, sinon vous tapez 2 et vous envoyez votre réponse par SMS au 3146. Merci pour votre participation et rendez-vous demain pour la réponse à la question du jour. En bref, le mois de mai est un mois de commémoration et d'anniversaire en Nouvelle-Calédonie. Ce 5 mai, c'est aussi l'anniversaire de la signature de l'accord de Nouméa entre l'État, le RPCR et le FLNKS. C'était il y a 27 ans, le 5 mai 1998. Toujours dans l'actualité en Nouvelle-Calédonie, le week-end a été particulièrement chargé pour les pompiers. Plusieurs incendies d'origine criminelle ont ravagé des véhicules mais aussi des bâtiments dans le Grand Nouméa, Léo Fichou.
A commencer ce samedi par la toute nouvelle structure de BMX qui est située à Tina et qui a été incendiée dans la nuit. Ce sont les Algeco situés à côté de la piste qui ont été touchés. Le feu a entièrement consumé le bureau et s'est propagé aux vestiaires qui sont partiellement endommagés. Gilles Brial, deuxième vice-président de la province sud en charge de la jeunesse et des sports.
Ben, la désolation, hein, d'abord pour une piste qu'on a inaugurée il y a à peine 15 jours. Il y a des Algeco, des conteneurs aménagés pour avoir des vestiaires, un bureau pour pouvoir travailler, une salle de formation pour expliquer aux jeunes comment aborder la piste. Et ça a été incendié, donc voilà, c'est en continu. Des petites bandes de bras s'attaquer aux équipements qui sont faits pour la jeunesse, pour que la jeunesse puisse s'occuper. Donc encore des équipements publics à peine inaugurés qui sont incendiés. Donc c'est la désolation et on voit que malheureusement la connerie humaine ne s'arrête pas.
La piste est quant à elle intacte. La structure a été inaugurée il y a donc moins d'un mois. C'était le 19 avril dernier, plus précisément. C'est un projet subventionné par l'État et la province sud qui ont injecté près de 150 millions de francs. Les auteurs ont été interpellés. Ils étaient hier en garde à vue. Ils sont âgés de 16 et 17 ans. Autre incendie, samedi aussi attendu cette fois. Il s'agit de la maison du gardien de l'école Gustave Lo. Heureusement, elle était abandonnée depuis que l'école a brûlé lors des émeutes l'année dernière. Les pompiers sont intervenus à 20h samedi soir et ont éteint les flammes qui ont ravagé le salon de la demeure. Et puis, on termine à Dumbéa. Hier soir, plusieurs départs de feu ont mobilisé les pompiers dans l'ancien centre commercial Kenuin. Un feu a été allumé dans les décombres d'un magasin, tandis qu'un camion entreposé sur le parking a été détruit.
Merci Léo Fichou. Il est 6h passé de 38 minutes. Après la publicité, l'actualité en métropole et dans le monde avec un enlèvement très violent à Paris sur fond de demande de rançon en crypto-monnaie. Explication juste après la publicité.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
Chez Simac Quincaillerie, c'est le mois des bons plans. La scie circulaire Makita, diamètre 190 mm, est vendue 16 600 francs. Offre valable du 1er au 31 mai, dans la limite des stocks disponibles.
5 francs de remise sur le carburant grâce à votre carte senior et vos points fidélité x3.
Avec vos stations Shell et Pacifique, bénéficiez d'une remise sur le carburant de 5 francs par litre tous les jours grâce à votre carte senior. Et encore mieux, avec votre carte fidélité Shell et Pacifique, faites x3 sur vos points en plus de la remise. Les stations Shell et Pacifique, toujours à vos côtés pour économiser.
Simplifiez-vous la vie avec le paiement en ligne. Pas besoin de créer de compte, rapide et pratique. Allez sur www.cde.nc, cliquez sur espace client et choisissez le paiement express pour régler votre facture d'eau. Calédonienne des eaux, l'eau qui nous unit.
Des galeries en terre sur vos murs, ce sont des termites de sol. Stop, ne touchez à rien, pensez Formula 4D. Plus d'infos sur formula4d.com. À vos côtés depuis 40 ans.
RRB 6h-8h, Nicolas Legrand.
La suite du journal est, je le disais, un nouvel enlèvement sur fond de chantage à la crypto-monnaie. Un homme a été libéré ce week-end par la BRI après avoir été séquestré 2 jours durant dans un pavillon de l'Essonne. Il a été kidnappé en plein Paris alors qu'il promenait son chien. Ses ravisseurs voulaient en fait soutirer de l'argent à son fils qui a fait fortune dans ces fameuses crypto-monnaies. La victime a ensuite été prise en charge par les secours, les malfaiteurs lui ayant sectionné un doigt pour faire pression sur ses proches. Une affaire qui rappelle l'enlèvement de David Ballan, le fondateur de Ledger. Antoine Bienveau pour Europe 1.
Comme lors de l'enlèvement de David Ballan, c'est une nouvelle fois une fortune de la crypto-monnaie qui a été visée par cette tentative d'extorsion. Ce système d'argent virtuel en pleine expansion depuis plusieurs années a créé beaucoup de nouveaux riches qui se sont constitués d'importants patrimoines. Alors forcément, ces jeunes millionnaires attirent la convoitise. C'est ce qu'explique Antoine Chéron, avocat spécialiste de la crypto-monnaie.
On a souvent affaire à des personnes relativement jeunes. Ils sont très médiatiques, ils ont un patrimoine qui est extrêmement connu, ils suscitent des convoitises. Et puis malheureusement, il y a des gens qui sont mal orientés et qui veulent obtenir ça. Et on est sur des actes qui sont odieux et extrêmement violents.
Des enlèvements violents qui ont pour but d'extorquer de l'argent à ces créateurs de crypto-monnaies. Le système semble parfaitement rodé, d'autant que cet argent virtuel est très facile à faire disparaître si la victime paye la rançon.
S'ils ont été intelligents, ils ont demandé à ce que ces millions d'euros soient donnés dans une crypto, qu'ils soient mis sur une clé USB. Ils récupèrent cette clé et n'importe qui détenteur de cette clé est capable d'acquérir ce patrimoine. Donc si vous mettez 10 millions d'euros sur une clé pour la dépenser dans n'importe quel pays dans le monde, personne ne va pouvoir voir que vous êtes le détenteur de la crypto-monnaie.
Selon les enquêteurs, les ravisseurs de l'homme retrouvés hier en Essonne demandaient bien plusieurs millions d'euros pour sa libération, mais aucune rançon n'a cependant été versé selon la justice.
Et quatre suspects âgés de 20 à 27 ans ont été interpellés dès l'intervention des forces de l'ordre. Deux autres personnes ont été placées en garde à vue selon le parquet. Dans l'actualité politique de ce lundi matin, l'idée de François Bayrou d'un référendum sur le budget 2026 ne serait pas du goût d'Emmanuel Macron. Selon un proche du chef de l'État, il émet des réserves. Je rappelle que le Premier ministre estime qu'il faut faire 40 milliards d'euros d'économies pour respecter les objectifs de réduction du déficit public. Il devrait donc dévoiler ses arbitrages d'ici le 14 juillet, Maïalène Trémollet.
Oui, si l'initiative du Premier ministre est défendue avec ferveur par les membres de son gouvernement, à l'image d'Agnès Pannier-Runacher, la ministre de la Transition écologique, invitée ce matin du grand rendez-vous CNews Europe 1.
C'est effectivement une démarche qui permet d'associer tous les Français. Lorsqu'on propose des mesures de réduction des dépenses, chacun se dit « mais pourquoi moi et pas les autres ?»
L'idée est loin de faire l'unanimité au sein de l'opposition, bien au contraire, pour le coordinateur de la France Insoumise, Manuel Bompard, il s'agit avant tout d'une tentative de coup politique.
Monsieur Bayrou s'est pas réveillé ce matin en disant qu'il allait être démocrate. Pour l'instant, les budgets passent par 49-3. Tout le monde voit bien le caractère assez loufoque de cette proposition, parce que quelles questions vous allez poser aux gens? Vous allez leur soumettre un projet de budget, vous allez leur demander s'ils sont pour ou ils sont contre.
Et François Bayrou n'en porte pas plus l'adhésion de la droite qui fustige une démarche pas nécessaire, à l'image de Laurent Wauquiez, pour qui, je cite, le Premier ministre cherche à gagner du temps et ne décide pas. Il faut dire que le référendum reste à ce stade une prérogative du président de la République, Emmanuel Macron, qui serait plutôt réservé sur la question, selon son entourage.
Maïalène Trémollet pour Europe 1.
À Radio Rythme Bleu, 6h43.
Direction Tel Aviv maintenant. L'aéroport a été la cible d'un tir de missile en provenance du Yémen. Plusieurs compagnies aériennes ont immédiatement suspendu leurs liaisons, c'est le cas d'Air France par exemple. Et pendant ce temps-là, Benjamin Netanyahou, le Premier ministre israélien, a réuni son cabinet de sécurité. Mais alors, que peut-il décider, Frédéric Simon ?
D'une nouvelle série de frappes aériennes contre les Houthis du Yémen, très probablement, il l'a laissé entendre. Il faut savoir que depuis la fin du cessez-le-feu dans la bande de Gaza le 27 février dernier, les rebelles yéménites lancent presque quotidiennement des missiles balistiques vers le territoire israélien. Dans plus de 90% des cas, la défense antiaérienne israélienne parvient à les intercepter. Ça n'a pas été le cas ce matin. Et pour la première fois, un missile provenant du Yémen s'est abattu dans la zone de l'aéroport international Ben Gurion, situé dans le centre d'Israël, un objectif régulièrement ciblé par les Houthis. 6 personnes ont été légèrement blessées, mais de l'avis des experts, le bilan aurait pu être bien plus lourd. En conséquence, plusieurs compagnies aériennes ont décidé d'annuler leurs vols prévus pour Israël. D'autres pourraient les imiter dans les prochains jours. D'ores et déjà, des centaines de touristes israéliens sont bloqués à l'étranger. Un risque d'isolement aérien qu'Israël ne peut pas se permettre de prendre, d'où la probabilité d'une riposte cinglante de l'armée israélienne.
Frédéric Simon, correspondant d'Europe 1 à Tel Aviv. Et puis l'actualité dans la région. Je rappelle que le travailliste Anthony Albanese a été réélu à la tête du gouvernement puisque les élections législatives se sont tenues samedi chez nos voisins australiens, Léo Fichou.
Le parti travailliste s'est largement imposé face à la coalition libérale nationale menée par Peter Dutton. 82 représentants pour le parti travailliste contre 38 pour la coalition. Anthony Albanese a savouré la victoire de son camp travailliste aux législatives et promis un gouvernement discipliné monnaie pour répondre à la crise du pouvoir d'achat, mais aussi aux droits de douane américains. Aujourd'hui, les Australiens ont voté pour les valeurs australiennes, pour l'équité, l'aspiration et les opportunités pour tous. Nous n'en avons pas fait assez pour convaincre dans cette campagne, c'est très clair et j'en prends l'entière responsabilité. J'ai appelé le Premier ministre pour le féliciter. Nous reconnaissons qu'il s'agit d'une victoire historique pour le Parti travailliste, a reconnu de son côté Peter Dutton.
Il est 6h passé de 45 minutes. La suite de l'actualité sur le territoire avec notamment la fin de l'exercice Croix du Sud. C'est juste après la pause.
RRB 6h-8h, Nicolas Legrand.
Envie de vivre l'aventure en Subaru sans que votre banquier se fasse harakiri ?
Jusqu'au 24 mai, ce sont les jours Banzai chez Subaru. Jusqu'à 500 000 francs de remise sur l'achat d'un Subaru Forester, Outback ou Crosstrek. Pour profiter de cette attaque éclair sur les prix, foncez tel un ninja chez Subaru, au village automobile PK4 à Nouméa ou chez NC Motors à Koné.
Offre valable du 7 avril au 24 mai 2025 dans la limite des stocks disponibles et remises pouvant aller jusqu'à 500 000 francs selon les modèles. Voir conditions en concession.
Construisons notre pays, économisons l'énergie.
Des conseils concernant les placements, l'épargne, les SCPI ou encore la retraite ? Caplif, votre expert calédonien en gestion de patrimoine, vous accompagne avec des solutions personnalisées. Caplif, depuis 35 ans à vos côtés. Et ce n'est que le début. Contactez Caplif au 28 30 00. RIAS 170 052, ORIAS 13103.
RRB, nos efforts valent bien un geste fort. Soutenez-nous, faites un don. Par chèque, virement ou en espèces aux 4 rues de Sébastopol. Toutes les infos sur rrb.nc ou sur la page Facebook. RRB, les fréquences aux couleurs de la France.
Les opticiens mutualistes vous proposent des montures de marque classique ou tendance et des verres top qualité de nos verriers Zeiss ou Essilor. Chez les opticiens mutualistes, trouvez au juste prix les montures et les verres qui vous conviennent pour un vrai plaisir de voir. Les opticiens mutualistes à Nouméa, La Foy et Koné.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
Excellente une journée, la suite de votre journal, on retrouve Nicolas Legrand.
Et je le disais donc avant la publicité, l'exercice Croix du Sud s'est officiellement terminé samedi. Après 12 jours de simulation de cyclone à Wallis et Futuna, c'est à Nouméa que la cérémonie de clôture s'est déroulée, place des Cocotiers. Un impressionnant cortège de soldats de toutes nationalités était réuni, place de la Marne, Léo Fichou.
C'est un scénario plus que réaliste qui était envisagé, celui d'une catastrophe naturelle qui toucherait un territoire du Pacifique Sud. Et pour la première fois, l'exercice s'est déroulé à Wallis et Futuna, à 2000 km de la Nouvelle-Calédonie. Pendant 12 jours, 18 nations, dont l'Australie, la Nouvelle-Zélande, les États-Unis, Fidji, la France et bien d'autres, ont collaboré dans cet exercice interarmé pour venir en aide à la population. Le général de division Yann Latil, commandant des forces armées en Nouvelle-Calédonie, a pris la parole samedi soir en présence du ministre des Outre-mer, mais aussi du nouveau haut-commissaire Jacques Billon. L'occasion pour lui de rappeler l'importance de cet exercice pour le rayonnement de la France dans le Pacifique.
C'était un vrai défi pour nous de monter cet exercice. Vous connaissez les conditions dans lesquelles nous l'avons préparé. Nous étions extrêmement motivés de montrer que la crise calédonienne ne nous avait pas mis à genoux, qu'on était toujours en capacité de rayonner dans la région, avec une ambition renouvelée en se projetant à plus de 2000 km de la Nouvelle-Calédonie, à Wallis et Futuna. Les enseignements principaux sont d'abord qu'on sait travailler ensemble. On le fait depuis de nombreuses années, on le fait au quotidien. Mais travailler ensemble dans une dimension aussi large, c'est-à-dire avec 23 pays, dont une douzaine dans chacun de nos états-majors, ça nécessite une coordination considérable des procédures communes qui nous ont fait travailler dans le fond des process. Et là, c'est extrêmement intéressant d'arriver à rallier tout le monde sur ces objectifs.
Ont également assisté à cette cérémonie de clôture Alcide Ponga, présidente du gouvernement, Sonia Baquès, présidente de la province sud, Véronique Roger-Lacan, ambassadrice de France pour la France dans le Pacifique et Sonia Lagarde, maire de Nouméa.
Et puis l'événement festif du week-end avait lieu à Bouloupari, on l'a évoqué en début de ce journal, la 27e édition de la fête du cerf et de la crevette. Pendant 48 heures, les Calédoniens ont pu profiter de nombreuses animations sur l'hippodrome municipal. Plus de 130 exposants proposaient des produits du terroir, mais surtout de la viande de cerf et des crevettes à toutes les sauces. Écoutez le bilan de Dany Nourtier, co-organisatrice de la fête du cerf et de la crevette.
C'est un bilan positif, c'est vrai que oui, bien entendu, on s'attendait à avoir un peu plus de monde, mais bon, on est bien au courant que la situation actuelle est compliquée et on manque de crevettes, parce qu'on a été dévalisés en très très peu de temps. Et puis je pense que le temps était beau sur Bouloupari, mais semble-t-il pas sur les autres endroits. Donc les gens ont peut-être eu peur de sortir.
Une estimation au niveau des visiteurs ?
Oui, on a fait 10 000 visiteurs. En majeure partie, les exposants sont très contents parce que les visiteurs ont été plutôt consommateurs. donc c'est déjà une bonne chose. Les stands culinaires sont plus que ravis. Beaucoup ont fermé de bonne heure parce qu'ils se sont fait dévaliser, en fait. Les visiteurs, ceux que l'on a pu voir, étaient plutôt joyeux de notre programmation artistique sur la scène, des animations que l'on a pu donner. La petite ferme, les animaux, les animations pour enfants et tout. Donc, dans l'ensemble, vraiment une belle cohésion et de la bonne humeur et une bonne satisfaction de la part de tout le monde.
Et rappelons que le ministre des Outre-mer a présidé la cérémonie d'ouverture de la fête en présence de plusieurs élus calédoniens et notamment du président du gouvernement, Alcide Ponga, et des maires de Blue Paris et du Mont d'Or, Pascal Vittori et Eddy Lecourieux. Une fête qui a refermé ses portes hier soir à 16h sur l'hippodrome de Blue Paris. Et puis à Marais, pendant ce temps-là, c'est la 32e édition de la fête de l'avocat qui était à l'honneur à la tribu de Neche. Depuis jeudi, le public a pu découvrir de nombreuses activités et des spectacles de chant et de danse, et il a surtout pu goûter l'avocat sous toutes ses formes. Là aussi, une fête qui a vu la présence du ministre des Outre-mer, Manuel Valls.
À Radio Rythme Bleu, 6h50.
Et ouvrons enfin l'agenda de la semaine qui vient de débuter. Une semaine qui s'annonce courte pour certains d'entre vous qui, après le pont du 1er mai, feront le pont du 8 mai, Léo Fichou.
En effet, jeudi 8 mai est un jour férié pour la commémoration du 80e anniversaire de la capitulation de l'Allemagne nazie et donc la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe. C'était le 8 mai 1945. Des cérémonies de commémoration auront lieu dans plusieurs communes de Calédonie. Des commémorations qui débuteront mercredi, le 7 mai, à Païta et à Dumbéa. Le 8 mai, c'est à Nouméa qu'aura lieu la commémoration en présence du ministre des Outre-mer qui quittera la Calédonie dans l'après-midi. Au chapitre institutionnel, les membres du CESE se retrouveront mercredi à la mairie de Nouméa pour une séance plénière. À l'ordre du jour, l'examen sur saisine du président du gouvernement d'un projet d'avis concernant une délibération relative aux manifestations sportives. Pour le reste, Koumac organisera à partir de jeudi la fête de l'écotourisme et de la génisse à la broche. Une grande fête dans le Grand Nord qui se terminera dimanche. Et enfin, dimanche prochain également aura lieu Place des Cocotiers, le vide-grenier du centre-ville de la ville de Nouméa. 250 stands vous attendront pour faire de bonnes affaires entre 7h et 12h30.
Et enfin, rendez-vous sur l'antenne de Radio Rythme Bleu. C'est Yves Dupas, le procureur de la République, qui sera notre invité du matin tout à l'heure à 7h30. En attendant, il est 6h52. Vous écoutez RRB. On va marquer une dernière pause dans ce journal avant de voir toute l'actualité sportive.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
Bullet avec Jardiland Nouméa. Du 5 au 25 mai, le Spa Fiji, 2 à 4 places de chez Bestway, est à 50 900 francs seulement. Alors n'attendez plus pour prendre soin de vous. Jardiland Nouvelle-Calédonie, vos économies commencent ici.
Jardiland. Cultivez votre bien-être.
La province Sud déploie SudPro. SudPro, c'est une plateforme novatrice qui interconnecte les patentés et les très petites entreprises durement éprouvées par la crise. C'est un dispositif fort, financé à hauteur de 1 milliard de francs par la province Sud, soit 250 000 francs par entreprise ou patentée. C'est surtout une aide directe et immédiate pour permettre de relancer l'activité. SudPro sera disponible dès la semaine du 5 mai depuis province-sud.nc. Avec SudPro, reconstruisons ensemble.
Et si cette année, on chouchoutait nos mamans ? Jusqu'au dimanche 25 mai, joue avec Arnott, ses tentes de lui offrir un week-end détente, une journée au spa ou un coffret de pâtisserie pour partager un moment ensemble. Réalise une recette avec ton produit Arnott's préféré et double tes chances de gagner. Pour jouer, rendez-vous dans l'un des magasins participants. Plus d'informations sur le Facebook Arnott's Community NC. Jeu gratuit sans obligation d'achat. Règlement disponible chez Maître Citrita.
RRB, première radio d'information. RRB, une radio d'opinion.
L'actualité sportive, c'est la suite d'Info Matin. On retrouve Nicolas Legrand.
Et on ouvre cette page sport avec du rugby et cet exploit signé cette nuit de l'Union Bordeaux-Bègles, Léo Fichou.
L'UBB s'est qualifié pour la première fois de son histoire en finale de la Champions Cup. Les Bordelots-Bègles ont dominé les tenants du titre. Toulouse, en demi-finale, une victoire avec la manière, 35 à 18. Écoutez le bonheur de Maxime Lucu quelques secondes après le coup de sifflet final.
On valide un petit peu le travail qui est fait. Je suis content pour le président aujourd'hui, pour le club, les supporters qui sont venus en nombre. On a eu beaucoup d'échecs à ce stade de la compétition. On en a eu un gros l'année dernière contre la même équipe. Et aujourd'hui, malgré un match la semaine dernière très compliqué, une semaine très compliquée dans les têtes où voilà, la semaine dernière on a pris une grosse claque, on s'est resserré et quand on a vu l'exploit de Nord-Saint-Aunière, on s'est dit que dans le sport tout est réalisable si on met du cœur et de la tête. Et aujourd'hui je pense qu'on a mis tout ça. Le rugby, des fois il y avait des choses approximatives, mais en tout cas aujourd'hui on a voulu avec le cœur et la tête aller chercher quelque chose de plus grand que d'habitude. Et malgré que ça soit Toulouse en face, on a essayé de changer un petit peu le cours de l'histoire.
En finale, le 25 mai prochain à Cardiff, l'Union Bordeaux-Bègles affrontera les Saints de Northampton, tombeur en demi-finale du Leinster 37 à 34.
Et notez qu'en Challenge Cup maintenant, c'est le Loup qui défiera Bath en finale le 24 mai. Lyon vainqueur du Racing 92 en demi sur le score de 29 à 15. Et puis du football avec la suite et la fin ce matin dans la 32e journée de Ligue 1. Les Nantais d'Antoine Comboiré ont réalisé une très mauvaise opération, Léo.
Défaite 1 but à 0 des Canaries face à Angers qui sont désormais 15e avec un seul point d'avance sur le Havre barragiste. Les Havrais vainqueurs d'Auxerre 2 buts à 1 dans les autres rencontres de la nuit. Brest a dominé Montpellier 1 but à 0. Lens est allé s'imposer à Lyon 2 buts à 1. Et puis ça joue actuellement entre Lille 6e et l'OM 3e. 52e minute de jeu et il y a toujours 0 à 0. Je rappelle que dans le week-end, le Paris Saint-Germain a perdu pour la deuxième fois consécutive en Ligue 1. Défaite 2-1 sur la pelouse de Strasbourg. Nice a battu Reims 1-0. Toulouse a dominé Rennes 2-1. Et Monaco est allé battre Saint-Etienne 3-1.
On passe au sport mécanique.
Vos stations Shell et Pacific, partenaires des pages spéciales Grand Prix de Formule 1 sur Radio Rythme Bleu.
Et après une sprint race plutôt chaotique, hein, remportée par Lando Norris, place ce matin au Grand Prix de Miami, Léo.
Et c'est Max Verstappen qui a signé la pole position. Le Néerlandais à bord de sa Red Bull s'élancera dans quelques minutes devant le vainqueur d'hier, donc Lando Norris sur McLaren et le rookie Kimi Antonelli sur Mercedes. Le Grand Prix de Miami partira à 7h. Constat difficile pour Charles Leclerc qui lui s'élancera de la 8e position. On l'écoute.
Surtout que dans les 3 dernières courses, il y avait de la progression, donc c'était assez encourageant. Mais là c'est vrai que c'est un peu un retour à la réalité qui fait mal, parce que 5 dixièmes sur une piste aussi courte qu'ici, ça fait mal, mais ça prouve bien qu'on a des faiblesses et qu'elles sont mises en évidence sur un circuit comme ici. Donc voilà, il va falloir qu'on bosse, parce que là on est même carrément derrière les deux Williams et c'est pas une erreur ou quoi que ce soit, c'est à la régulière, hein. Vraiment j'ai eu de la chance de passer en Q3, j'étais à la limite de pas y réussir, donc c'est compliqué.
Charles Leclerc 8e donc, juste devant Esteban Ocon 9e, Isaac Hadjar partira de la 11e position, Pierre Gasly s'élancera lui de la 18e.
C'était votre page spéciale Grand Prix de Formule 1 parrainée par Shell et Pacific. Shell, à nouveau partenaire innovation de la Scuderia 2025. Sélectionnez le meilleur pour votre véhicule.
Du cyclisme à présent avec la victoire de João Almeida sur le Tour de Romandie.
Le Portugais a détrôné Lenny Martinez, porteur du maillot jaune de leader lors de la 5e et dernière étape cette nuit. Au général, le jeune Français termine donc 2e à 26 secondes de João Almeida. L'Australien Jay Vine complète le podium. La victoire du jour sur le contre-la-montre de 17,1 km revient au champion olympique Remco Evenepoel.
Du tennis avec la finale ce matin du Masters 1000 de Madrid et dans un match très serré, Léo, c'est Casper Ruud qui s'est imposé en 3-7 face à Jack Draper. Et puis, tant qu'on parle de tennis, prenons des nouvelles maintenant du Calédonien Maxime Chazal.
7 défaites pour 4 victoires seulement depuis le début du mois de mars. Maxime Chazal a connu mieux, il faut le dire, mais le Calédonien 326e à l'ATP espère se relancer cette semaine en République tchèque au Challenger de Prague. Invité par les organisateurs, il s'est qualifié la nuit dernière pour la finale des qualifications. En cas de victoire ce soir face à Geoffrey Blancano, il intégrera le tableau principal.
Et puis le sport sur le territoire avec samedi le premier rallye de la saison. Ça s'est passé sur les pistes de Tomovalley à Boulou-Paris.
À l'issue des 9 spéciales disputé 6 de jour et 3 en nocturne, c'est Kevin Bertoni au volant de sa Mitsubishi Evo 8 qui s'est imposé. Il devance Hendrik Maui sur Subaru et Jérôme Martinatti sur Ford Fiesta RS5. Un classement qui en a surpris plus d'un. Écoutez Romain Leandro, le président de l'association des sports automobiles.
Il y a eu quelques abondants. D'ailleurs, c'est un petit peu dommage parce que c'était pas mal de leaders du rallye qui ont eu des petits soucis. Mais bon, malheureusement, c'est comme ça, c'est la course, ça arrive. On a eu Eugène Crenier qui a eu un petit souci mécanique. On a eu Alexis Barbou, pareil, qui a eu une petite sortie, qui a eu des soucis mécaniques aussi, qui aurait dû être, je pense, dans les avant-postes. Eric Riendé aussi, bon, qui a fait une sortie de route. Mais ça n'a pas empêché de pouvoir avoir du beau spectacle et un très beau rallye.
Et le prochain rallye se déroulera le 26 juillet. Ce sera donc la deuxième manche des rallyes Nouvelle-Calédonie du côté de Bouraille.
Et puis il y avait aussi du trail ce week-end et c'était à la fois.
Le coup de trail a rassemblé de nombreux amateurs de sport en pleine nature. Avec près de 300 personnes qui étaient au départ à l'auberge de Pierra, 3 parcours étaient proposés sur le Grand Cerf. Le Grand Trail de 13,5 km, c'est Gabriel Espada qui s'est imposé. Victoire d'Angélique Plaire chez les dames. Et puis sur le Daguet Trail de 8 km, c'est Thierry Kadouka qui a passé la ligne d'arrivée en tête devant Marine Lacroix, première féminine.
Et évidemment, on retrouvera tous les résultats sportifs ce midi dans le Mag des Sports et on va parler en particulier de natation puisqu'on va évoquer le meeting du CNC avec notamment Cécile Marquez et Emma Thérébaud qui seront nos invités ce midi.
La météo avec la 7. 6 magasins sur l'ensemble du territoire pour vous accompagner dans tous vos projets. La 7, construire, rénover, aménager.
Et la météo, c'est avec vous Thierry.
Oui, ce matin, le ciel sera généralement couvert avec des averses faibles qui remonteront sur la Lysée, notamment sur la pointe sud, le nord des Loyautés et le nord-est. Le vent pour ce matin, orienté est-sud-est, se maintient autour des 20 nœuds avec des rafales jusqu'à 30 nœuds. Ce sera sur le nord-est. Ailleurs, il sera compris entre 15 et 20 nœuds, sauf sur l'ouest où il sera plus faible, compris lui entre 10 et 15 nœuds. Cet après-midi, les nuages recouvriront le territoire et des pluies faibles intermittentes seront attendues sur la pointe sud et la côte est. Elles seront plus rares ailleurs. Le vent pour cet après-midi, orienté sud-est à est-sud-est, autour des 15 à 20 nœuds en général. Il sera plus faible, entre 10 et 15 nœuds sur le sud, l'ouest et le sud des Loyautés. Les températures, elles sont comprises en général entre 26 et 29 degrés.
Merci beaucoup Thierry, merci à tous d'avoir suivi ce journal.